Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je préparais un papier en anglais. Il a été traduit. Mon français, c'est pas très bien, mais j'espère qu'il sera compréhensible. La justice sociale est, dans les démocraties occidentales, l'affaire des institutions de l'État-providence. On considère généralement l'accès au programme de justice sociale comme assuré par le droit de deuxième génération. Ces droits sociaux ne sont pas purement négatifs comme le droit de propriété, mais sont considérés comme positifs, c'est-à-dire qu'ils obligent l'État de façon spécifique. Cette vision, qui place sur l'État le poids spécifique de la satisfaction des droits sociaux, est cohérente avec l'évolution de la jurisprudence occidentale. Depuis la révolution scientifique et la réforme, la justice sociale a été exclue du cœur du droit privé. La notion scolastique de droit, qui s'enracine dans la conception développée par les juristes de l'Université de Salamanque au VIe siècle, pour laquelle il y a deux conseils de justice, distributif et commutatif, a été abandonnée du début de la jurisprudence occidentale moderne. À partir de Grotius, XVIIe siècle, les questions sur la justice ont été assimilées à celles de l'équité dans l'exchange contractuel entre individus. Selon cette vision, la distribution de ce qui s'appartient à toutes les sociétés, et pas seulement à des éléments, a été considérée comme un fait social. La justice a alors été exclue de la science juridique. L'économie, qui s'est développée comme une branche autonome du savoir au XVIIIe siècle, partage une telle vision. D'après cette sagesse dominante, la question de la distribution ne peut faire partie d'un discours scientifique fondé sur le positivisme. La distribution est considérée comme relevant bien plus du domaine de valeurs politiques que de faits mesurables empiriquement. La justice distributive devient une question politique qui était gérée par les institutions de l'État et du droit public. La naissance de l'État-providence au début du XXe siècle a été considérée comme une intervention exceptionnelle des régulations dans l'ordre du marché, avec comme objectif spécifique de garantir une forme de justice sociale aux membres les plus faibles de la société. En Occident, depuis lors, la justice sociale n'a plus été capable de revenir au cœur du discours sur les droits fondamentaux et par conséquent est demeurée constamment à la merci d'une crise fiscale. Pas d'argent, pas de droits sociaux. Aujourd'hui, le Conseil de commun peut fournir exactement les outils à fois légaux et politiques que nous avons besoin pour contrer la marginalisation progressive de la justice sociale. Étant au dehors de l'opposition de l'État contre le marché, le commun, en tant que cadre institutionnel, propose un paradigme juridique alternatif, offrant une plus équitable distribution de ressources, avec pour conséquence directe la justice sociale. Envisager le commun. L'actuelle conception présente l'opposition entre le public, le domaine de l'État, et le privé, le domaine du marché et de la propriété privée, comme épuisant la série des possibilités, dans une sorte de jeu à somme nulle. Cette impasse est le résultat de la tradition moderniste qui est encore dominante aujourd'hui en droit et en économie politique. Elle dissimule le commun à la vie de la collectivité. Le commun est cependant l'ensemble des ressources qui appartiennent au peuple parce qu'elles sont de l'ordre de la nécessité et qui réclament un accès libre. Le commun s'oppose radicalement à la fois à l'État et à la propriété privée, puisqu'ils sont tous les deux produits des forces du marché. Le commun ne peut faire l'objet de concessions. Si le commun est convenablement théorisé et envisagé d'un point de vue politique, il peut alors avoir la fonction décisive de réintroduire la justice sociale au cœur du discours juridique et économique en ouvrant au peuple un moyen d'action directe. Le commun fournit des services qui sont souvent considérés par leurs bénéficiaires comme étant garantis. Ceux qui bénéficient du commun n'ont pas conscience de valeur intrinsèque de ce qu'ils reçoivent. Ils ne s'en rendent pas compte que lorsqu'il s'y est détruit ou quand il faut trouver un substitut. En un sens, les services universels fournis de commun sont similaires au travail domestique. Ils ne sont jamais remarqués quand ils sont effectués. C'est seulement quand personne n'est là pour le prendre en charge qu'on mesure leur valeur. En d'autres mots, on vient à manquer une des choses lorsque celle est perdue. On peut voir deux exemples frappants de cette situation avec le cas de mangrove et avec celui de barrière du corail. Les gens qui vivent sur leur côte ne sont pas capables d'estimer les valeurs du service qu'elles remplissent simplement parce qu'ils ne savent pas que ces bois ont une fonction spécifique ou que la mangrove et la barrière du corail sont en train de faire quelque chose pour eux. C'est seulement quand le tsunami frappe, en détruisant le village, que la valeur de cette végétation apparaît. Toujours est-il quand même cette destruction de mangroves jouant un rôle majeur dans la protection du village côtier contre vagues de tsunami. Il serait extrêmement coûteux de construire une barrière artificielle équivalente. Déraciner la source de l'actuelle sagesse dominante dans la tradition juridique occidentale. Il est possible de dire que le commun disparaît du fait d'une incompatibilité structurelle qui tient aux aspects les plus enfouis de la légalité occidentale, l'égalité qui se fond dans la combinaison universalisante et exhaustive de l'individualisme et de la dichotomie de pouvoir public et de la propriété privée. Des siècles plus tôt, dans la Rome antique, ces clans étendaient souvent leur possession terrain par l'usurpation du commun. La privatisation du commun a déjà été décrite par Engels comme l'aspect économique le plus fondamental du développement occidental. Ainsi, le droit occidental a joué un rôle très important dans la destruction du commun et sûrement part dans sa protection. Il semble que ce soit encore l'objectif du développement dans le capitalisme cognitif. Quand on pense aux poursuites engagées contre les exchanges peer-to-peer sur Internet. De plus, il y a toujours été problématique pour le commun de trouver quelqu'un qui veuille le représenter devant une cour et poursuivre ceux qui tentent de s'emparer. Hier comme aujourd'hui, ceux qui bénéficient le plus de commun ne sont pas les propriétaires au sens technique du mot, mais bien davantage les fermiers pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au système judiciaire. Qu'on se souvienne de la facilité avec laquelle ces fermiers ont été victimes des enclosures en Angleterre qui ont constitué la phase décisive du développement du début du capitalisme en fournissant la force du travail prolétaire nécessaire au développement des manufactures. De telles enclosures et d'une telle production de force de travail issue des paysans dépossédés n'aurait pas été possible sans l'alliance fondamentale entre les propriétaires et l'État. Déchirer le voile de la dichotomie supposée entre l'État et la propriété privée. Le débat opposant le public au privé présente une dichotomie fallacieuse, une distinction sans différence. L'État n'est plus la représentation démocratique d'un agrégat d'individus, mais un acteur du marché parmi d'autres. La collusion entre l'État et les intérêts privés, avec les mêmes auteurs, les firmes, de deux côtés de l'équation, ne laisse qu'un tout petit espace pour un cadre commun, sans considération aucune de l'évidence des bénéfices. La propriété privée et l'État sont les deux institutions légales et politiques majeures qui soutiennent la représentation dominante du monde. La sagesse... La sagesse commune les présente comme radicalement conflictuelles. Cela veut dire, d'un point de vue formel, que l'État et le marché ont une relation à somme nulle. Plus d'État équivaut à moins de marché, et plus de marché équivaut à moins d'État. Dans ces schémas réducteurs, l'État et la propriété privée deviennent la quintessence de le pôle d'opposition entre le public et le privé. Bien sûr, ce tableau est totalement faux, ce que soit du point de vue historique ou actuel, parce que c'est les deux entités en tant qu'institution sociale vivante ne peut être structurellement qu'enchaînée dans une relation de symbiose. L'opposition fictive entre les deux est un choix idéologique précis de la tradition individualiste. Cette réduction cache une structure commune de propriété, le marché et de la souveraineté, l'État, fondée sur la concentration du pouvoir. Des structures privées, les firmes, concentrent le processus de décision et le pouvoir d'exclusion dans les mains d'un sujet, le propriétaire ou bien d'une élite, le DG. De même, les structures publiques, la bureaucratie, concentrent le pouvoir au sommet de la hiérarchie de la souveraineté. Ces deux archétypes sont inscrits dans une structure fondamentale, la domination d'un sujet sur un objet, un bien privé, une organisation, un territoire. Une telle prétendue opposition entre deux domaines qui partagent une même structure est le résultat de la pensée moderne, cartésienne, réductionniste, quantitative et individualiste. Le sujet individuel, le seul, narcissique et manquant, trouve la satisfaction de tes désirs dans la production, les services et les objets externes. C'est cette horizon relationnelle appauvrie qui a produit notre isolement de la nature. Nous la possédons, donc nous ne sommes pas un de ces éléments, qui a été scientifiquement construit comme objectif et mesuré par un système de prix à payer pour la satisfaction des besoins variés de plus en plus complexes. La fonction individualiste, typique de la tradition libérale, induit des besoins marchands par la destruction de l'expérience communautaire. Plus un individu solitaire a des besoins, plus il sera possible d'obtenir de l'argent pour la satisfaction de ses besoins. Ainsi, le paradigme qualitatif, fondé sur une relation signifiante, a cédé au paradigme quantitatif. Malheureusement, l'écologie et les pensées systémiques, qui sont le paradigme capable de révéler à quel point ces dynamiques d'accumulation individualiste sont dévastatrices pour la vie communautaire, sont de façon notable absentes de la réflexion politique contemporaine, qui ont choisi les sciences sociales comme seul support de la pensée. Gareth Hardin a écrit dans La tragédie du commun : un commun est un lieu où la loi est absente et par conséquent un lieu en ruine. Je crois au contraire que l'État et le marché qui s'appuient sur l'individu sont les faits aujourd'hui coupables de cette ruine. La tragédie du commun : deux visions du monde dans le conflit opposant la compétition et la coopération. L'individualisme égoïste est la présupposition centrale qui était analysée de Hardin. Seule une application très crue du modèle de l'homo economicus, à savoir du maximisateur individuel d'utilité à court terme, peut expliquer le résultat et le succès académique d'une prétendue tragédie du commun. En fait, la parabole bien connue a perverti la sagesse commune en fait de commun en lieu de la loi commun un lieu où la loi est absente. Selon Hardin, une source commune a donc librement appropriable par chacun, stimule le comportement opportuniste d'accumulation. Et pour finir, une consommation destructrice est inefficace. Ce raisonnement évoque l'image d'une personne invitée à un buffet où la nourriture est en libre-service et qui, au lieu de partager le butin avec les autres, se rue dessus dans le dessein de maximiser le nombre de calories qu'il peut stocker aux dépens des autres, c'est-à-dire consommant le plus grand quantitatif de nourriture dans le moyen de temps possible. La tragédie du commun met en lumière deux représentations du monde en conflit. Les représentations dominantes du monde, substantiellement fondées sur l'idée du darwinisme social, qui fait de la compétition, de la lutte et de l'émulation entre les personnes physiques et morales une essence de la réalité. Il existe de nombreux récits possibles pour expliquer l'abandon du modèle fondé sur la communauté en Occident. Le plus pertinent pour notre propos considère sa disparition comme le produit d'une modernisation progressive des forces du marché s'appuyant sur les institutions politiques publiques. Le fait est que l'alliance entre les institutions publiques et les intérêts de la propriété privée a été la force qui a épuisé à la course de la colonisation, à l'enclosure des communs en Angleterre au XVIIe siècle et à l'accroissement de la concentration du capital, l'accumulation initiale dans les mémoires marxiennes. La vision récessive du monde est fondée, par contre, sur une approche écologique et holiste et s'appuie sur le concept de relations, de coopération et de communauté. Ce modèle, encore présent dans l'organisation des communautés de la périphérie, continue de subir les assauts sans merci du plan de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui puissent à la modernisation. De tels efforts de modernisation encouragent et produit la marchandisation, en encouragé et produit la marchandisation de terre et du savoir local, soutenu par un processus d'ajustement culturel qui sert de rhétorique justificatrice d'un pillage constant. Aller au-delà de la tragédie. Elinor Ostrom a bien montré, à travers un nombre écrasant de preuves empiriques, que les accords pris dans le cadre de la propriété coopérative sont des faits positifs et que les individus ne détruisent pas les réserves de leurs ressources communes. Le travail d'Ostrom marque indéniablement un tournement dans la critique de la théorie économique. Il réfute la tragédie des Ardennes, mais de fait, échoue à montrer que les firmes et l'État, et même peut-être les individus, se comportent de fait bien de telle sorte qu'ils produisent la tragédie, sans considération pour le contexte historique, politique et juridique de la lutte contre de la lutte entre les membres du commun d'une partie et l'alliance à nuire de l'État et de la propriété privée de l'autre, les résultats d'Ostrom restent donc limités dans leur application possible. Les droits des biens, depuis ces permis, développement en Occident, a participé à la justification du pouvoir des souverains dominants sur le sujet le plus faible dans un brutal processus d'exploitation. Le droit de la propriété a continué dans cette direction par la théorie de la terra nullius pendant la période de la colonisation. Dans les temps plus récents, ce type de domination a pris une forme plus subtile et plus hégémonique, mais c'est précisément cela qui fait agir les firmes comme des maximisateurs de profits à court terme sans relâche ni merci. Que l'issue de commun soit considérée comme tragique, Ardenne ou non, Ostrom, cette approche du commun n'est sûrement pas la marchandisation. Ces approches contribuent même à une logique, à une longue tradition de pensée moderniste qui assure une place à l'individualisme radical et au démantèlement à venir du domaine public au profit des intérêts privés. La perversité et la fausse opposition entre l'État et le marché, tel que nous venons de le voir, empêchent la littérature sur le commun de rompre trop radicalement avec la marchandisation. Les actuelles taxonomies qui tentent d'ordonner les différents types de communs, communs naturels comme l'environnement, l'eau, contre communs sociaux comme la culture, le savoir, la mémoire historique, ne rendent pas complètement compte des changements nécessaires pour une approche plus phénoménologique de nos problèmes. La réduction du commun à des marchandises limitait en fait son champ et par conséquent limite aussi le potentiel révolutionnaire fondé sur la revendication légitime d'une radicale redistribution égalitaire des ressources. La plupart de la littérature libérale nobilisée doit faire l'objet d'un examen critique approfondi pour éviter de reproduire encore la traditionnelle représentation mécaniste qui sépare les sujets et l'objet et dont le résultat est la marchandisation. À partir de données empiriques aujourd'hui disponibles, nous devons réévaluer en manière critique nos institutions actuelles et reconquérir notre sens commun sur l'enjeu qui constitue la distribution des ressources perverties depuis trop longtemps par l'agenda libéral de la modernité. Le projet lié au commun, ce doit être un nouveau cadre pour un gouvernement participatif conçu comme un agencement alternatif de la propriété. La révolution holiste, la réhabilitation du sens du commun. De façon assez intéressante, le récit contre-hégémonique s'opposant à la pierre de touche de l'individualisme émane des sciences. Des attitudes holistes fondées sur une cartographie qualitative des relations plutôt que sur des mesures quantitatives et sur la réductionnisme positive de Galilée, Descartes et Newton émergent finalement dans les sciences à travers la physique ou la biologie de systèmes. La mécanique quantique, en particulier, et la théorie de la relativité d'Einstein ont causé une révolution épistémologique qui, dans les disciplines plus récentes, comme les sciences cognitives, les sciences de la conscience, tentent de prendre en compte. Cette révolution holistique a, sur le plan phénoménologique, des racines anciennes, depuis les investigations ontologiques d'Aristote jusqu'à des philosophes plus tardifs, comme Husserl ou Heidegger, qui emploient des concepts phénoménologiques comme Fundierung ou pertinence pour mettre en évidence la fin du monde objectif où les sujets sont séparés de leur objet d'observation. En dépit de la richesse de l'empreinte produite par la révolution holiste dans ces disciplines, cette révolution doit encore être adoptée par les sciences sociales. Là, la tradition empirique anglo-américaine, qui s'enracine dans les scientifiques de Bacon, domine encore le paysage académique, tout particulièrement en économie, en sciences politiques, en sociologie, mais aussi dans les traditions anglo-américaines de philosophie analytique, ainsi que dans l'étude du droit. Le commun ne peut qu'être décrit uniquement à partir d'une perspective phénoménologique étoliste, et sa compréhension est donc incompatible avec le réductionnisme dont nous venons de parler. Le commun est radicalement incompatible avec l'idée de l'autonomie individuelle telle qu'elle a été développée dans la tradition capitaliste fondée sur le droit individuel. À cet égard, le commun est une catégorie écologique et qualitative basé sur l'inclusion et les droits d'accès, alors que la propriété et l'État souverain sont des catégories économiques et quantitatives, fondées sur l'exclusion et la concentration violente du pouvoir dans un nombre de mains réduit. Tout cela exige évidemment l'attention du juriste, à qui s'impose la tâche difficile et urgente de construire une fondation nouvelle pour un ordre légal capable de transcendre le dualisme propriété-État inhérent à l'actuel ordre juridique. Étant donné la prédominance qui a été accordée à la propriété privée, à l'individualisme et à la compétition comme base de l'actuel ordre juridique, le nouvel ordre doit contrebilancer ce déséquilibre en mettant en évidence la collectivité et le commun comme centre en créant un fondement institutionnel se préoccupant de viabilité à long terme et d'une inclusion de tous les membres du commun global, y compris les plus pauvres et les plus vulnérables, humains ou non humains. Pour ce faire, nous avons besoin tout d'abord de nous émanciper épistémologiquement et politiquement de l'appétit prédateur aussi bien d'État que de la propriété privée, qui sont des deux composantes fondamentales de la pensée dominante impérialiste occidentale. Le commun se trouve au-delà de l'opposition réductionniste sujet-objet qui produit la marchandisation de cette dernière. Le commun, contrairement au bien privé et au bien public, n'est pas une marchandise et ne peut être exprimé dans le terme de la possession. Le commun exprime une relation qualitative. Il serait réducteur de dire qu'on possède un bien commun. Il faut prendre en compte le fait que nous faisons partie du commun, dans la mesure où nous faisons partie d'un environnement, un écosystème urbain ou rural. Ici, le sujet est une partie de l'objet. C'est pourquoi les biens communs sont inséparablement liés et relient les individus, les communautés et l'écosystème lui-même. Une transformation politique. Aujourd'hui, nous pouvons voir des exemples tout autour de nous, depuis le réchauffement climatique à la crise économique, du fait que le paradigme holistique politiquement récessif, mais philosophiquement plus sophistiqué, nous propose une transformation fondamentale et nécessaire de notre perception de la réalité. Dans ce contexte, la notion de commun peut donner les moyens d'une réflexion institutionnelle sur le besoin de rejeter l'illusion du libéralisme et du rationalisme moderne. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter de voir dans le commun une troisième voie entre la propriété privée et l'État, comme le suggère le plus souvent le débat actuel. Il est certain que dans le cadre des résurgences actuelles de l'intérêt académique pour cette notion, le commun est réduit à un cadre institutionnel proposé pour gérer le laisser du banquet historique de l'Occident qui occupe avec l'État et la propriété privée l'essentiel de la science politique. Au contraire, nous croyons que le commun doit être promu comme une structure institutionnelle qui questionne réellement dans le domaine de la propriété privée et ses instruments idéologiques comme l'autonomie de la volonté ou le marché que l'État. Non pas une troisième voie, mais un ennemi légitimé par l'écologie de l'alliance entre propriété privée et État. La transformation que nous avons besoin au présent accomplir d'un point de vue politique et pas seulement théorique consiste à transformer la pensée dominante de l'absolue domination du sujet sur l'objet pour se concentrer sur la relation des deux sujet-nature. Nous avons besoin d'un nouveau sens commun, reconnaissant au-delà de l'hubris libéral occidental que la survie de chaque individu dépend de sa relation aux autres et à la communauté et à son environnement. Le premier objectif nécessaire apparaît alors. Il faut passer d'une attention donnée au quantitatif, l'idée fondamentale de la révolution scientifique et de l'accumulation capitaliste, à la notion centrale de qualité de la vision holiste alternative. Un système légal fondé sur le commun se doit d'utiliser l'écosystème comme modèle, là où une communauté d'individus et de groupes sociaux sont unis par une connexion horizontale mutuelle et un réseau où le pouvoir est dispersé. L'idée de hiérarchie est plus généralement rejetée, ainsi qu'elle sait de compétition produite par la même logique, et on lui préfère le modèle participatif et collaboratif qui protège contre la concentration de pouvoir dans un seul parti ou une seule entité, tout en plaçant au contre les intérêts du groupe. C'est seulement dans ce cadre que les droits sociaux pouvaient être satisfaits. Dans cette logique, un élément du commun, l'eau, la culture, l'Internet, la terre, l'éducation, n'est pas une marchandise, mais au contraire, un élément d'une conception de la réalité qui défie radicalement par les armes de la critique et parfois par la critique des armes la tendance apparemment irrésistible de la privatisation. Conclusion. Même aujourd'hui, en dépit de la dramatique crise financière de 2008, alors que l'idéologie du marché et du libre-échange a montré sa nature catastrophique, l'intervention de l'État a été utilisée pour le transfert massif d'argent public vers le secteur privé. La logique de pillage partagée par les secteurs privés et publics ne pouvait pas être plus manifeste. Il est clair que nous aurions besoin d'une extension très large de la structure du commun pour subvertir la domination de la propriété privée, ainsi que la rhétorique de l'autonomie de l'État et de l'État du droit, qui soutient actuellement aussi bien l'État que le marché. L'expansion du commun favorise la logique opposée, celle d'une authentique démocratie participative dans le domaine de l'État et du marché. L'agenda, moins de gouvernement, moins de marché, plus de commun, est, je crois, l'unique voie pour ressusciter une proposition alternative d'intégration sociale et de satisfaction directe des droits sociaux, capable de reconquérir l'hégémonie. Merci beaucoup.